VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, 13h en temps universel, bienvenue. On commence par la Libye. Plusieurs pays occidentaux et arabes ont appelé les Libyens à adopter immédiatement l'accord politique proposé par l'ONU le 9 octobre et qui prévoit la mise en place d'un gouvernement d'union pour sortir du chaos dans le pays. Il s'agit des États-Unis, de l'Union européenne et de plusieurs de ses membres, mais aussi de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, les Émirats arabes unis, le Qatar ainsi que la Turquie. Ces pays appellent toutes les parties au dialogue politique libyen à adopter immédiatement l'accord politique négocié par le représentant spécial des Nations Unies, Bernardino Léon, dans un communiqué conjoint diffusé aujourd'hui à Paris. En République démocratique du Congo, une personne au moins a été tuée hier soir dans une attaque attribuée à des rebelles ougandais en territoire de Beni, dans l'est du pays. La ville d'Ouacha a été attaquée à la tombée de la nuit, a déclaré à l'AFP Amissi Kalonda, l'administrateur du territoire de Beni dans le nord du Nord Kivu. Une femme a trouvé donc la mort et deux autres personnes ont été enlevées, a ajouté l'administrateur, faisant état également de quelques maisons brûlées. L'armée dans la région a confirmé le bilan donné par M. Kalonda, accusant tout comme lui les rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, ADF, d'être responsables de l'attaque. Au Congo-Brazzaville, plusieurs leaders d'opposition ont finalement pu rentrer à Brazzaville hier soir après leur bras de fer avec les forces de sécurité dimanche quand ils ont essayé de se rendre dans la ville de Dolisi au lendemain de leur meeting contre le référendum constitutionnel samedi à Pointe-Noire. Les détails avec notre correspondant à Brazzaville, Ngola Ngusu.
Alors qu'ils devaient se rendre dimanche à Dolisi, la troisième ville du pays, pour un autre meeting, les leaders de l'opposition ont été bloqués pendant près d'une heure au poste de péage du Mengo à la sortie nord de Pointe-Noire. Pas question donc de quitter la capitale économique. André Okomi-Salissa affiche la sérénité.
Tout le temps, depuis que nous avons commencé, la paix est le maître mot chez nous. Et nous sommes avec le droit. Nous avons le droit avec nous, nous avons le peuple avec nous. Donc nous savons que nous sommes sur la bonne voie, nous ne nous inquiétons même pas. La raison de notre côté, et puis Mao Tse-Tung disait que quand ça bouge, si ça bouge, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Comme ça bouge partout, ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction.
Que nous aussi, et peut-être plus que, nous sommes pour la paix. Comme nous avons été à Brazzaville le 25, comme nous avons été à l'intérieur du pays, nous sommes venus faire cette campagne en organisant ce méga meeting qui pour nous a été un grand succès, n'eût été justement cette sauvagerie que nous avons constatée, hélas.
Samedi, des graves incidents ayant causé plusieurs blessés avaient en effet précédé le meeting de Pointe-Noire qui aurait, selon les organisateurs, réuni 500 000 personnes. Satisfaction totale du Claudine Ménari.
C'est déjà une bonne chose de venir constater la mobilisation de cette foule que vous aurez vous-même du mal à quantifier, tant les gens sont nombreux, malgré les barrages, les entraves qui ont été mises par la fonction publique, les forces de l'ordre. C'est un meeting pour nous conforter dans le sens que nous avons raison, nous sommes dans la vérité. C'est pour dire qu'il n'y aura pas de référendum. Nous sommes venus leur donner rendez-vous pour le 20. À partir du 20, plus personne ne parlera de référendum dans ce pays. Ce sera classé.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a enfin finalisé la liste de son gouvernement 5 mois après sa prise de fonction. Mais les 36 hommes et femmes sélectionnés par le chef de l'État nigérian doivent maintenant être confirmés par la Chambre haute du Parlement. Les explications du professeur Ali Buhari de l'Université de l'État de Nasrama à Kefi, près d'Abuja.
Les pays s'est trouvé dans une situation très, très, très catastrophique au niveau de la corruption, au niveau de la moralité, au niveau de tout. Donc, il fallait aller très, très doucement. Et surtout avec les menaces de Boko Haram au nord du Nigeria, vous voyez, et sur le plan économique, avec la chute du prix du pétrole au niveau international, le gouvernement fédéral arrive maintenant difficilement à s'acquitter de payer les salaires des fonctionnaires publics. Donc, il fallait que ce bonhomme, comme il est bien expérimenté, il a été, comme les gens disent, un dictateur militaire. Je vous signale une chose. Pendant cette période, quand les gens croyaient qu'il n'a rien fait, il a mené des enquêtes pour pouvoir voir où les gens ont mis tout l'argent décaissé de la fonction publique. Donc, on a pas mal récupéré de l'argent. Et maintenant, on a tout versé cet argent dans la caisse nationale.
Guinée, après l'annonce de la victoire du président sortant Alpha Condé au premier tour, l'opposition conteste les résultats, prévient qu'elle va manifester le moment venu. Mais en attendant, le calme règne à Conakry. Les résultats provisoires doivent encore être confirmés par la Cour constitutionnelle. Le point avec notre correspondant dans la capitale guinéenne, Zakaria Camara.
Les citoyens rencontrés dans la capitale affirment être surpris du calme qui règne depuis la publication des résultats de l'élection présidentielle.
Je suis vraiment étonné que les résultats aient sorti et qu'il n'y ait aucun bruit. La nuit, tout était calme et on est vraiment content parce que je crois que les Guinéens ont pu faire une prise de conscience à ce sujet.
Surpris d'abord parce que tout au départ, les leaders politiques avaient monté la tension. Les discours n'étaient pas apaisants.
J'ai été vraiment surpris qu'il n'y ait pas eu d'affrontement entre les deux partis, c'est-à-dire l'UFDG et l'URPG.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
Processus de paix au Mali, le rôle de la femme dans les efforts pour promouvoir la réconciliation nationale et le retour de la paix a été au centre d'une rencontre à Bamako qui a réuni des femmes militaires, députées et responsables d'ONG. C'était dans le cadre du 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Cette rencontre entre les femmes a porté sur les engagements du gouvernement du Mali, l'accord de paix intermalien, son niveau de mise en œuvre et les difficultés de la promotion politique et administrative de la femme malienne. Il a été aussi question des causes des conflits cycliques violents au Mali. Fatoumata Maïga, présidente de l'ONG pour les initiatives de paix au Mali.
Les femmes, elles veulent que leur travail soit reconnu et qu'au niveau du gouvernement, on comprenne qu'elles sont des citoyennes à part entière. Parce que quand un conflit vient, la violence ne choisit pas. Et très souvent, elles sont actrices de paix en même temps actrices de conflit.
Plus de 50% de la population malienne est constituée de femmes. Et pourtant, elles n'ont pas été prises en compte dans le cadre du processus de paix et de réconciliation au Mali. Diallo Aissata Touré, députée à l'Assemblée nationale du Mali.
Je sais que les femmes ont eu un très grand rôle à jouer dans l'instauration de la paix. D'autant plus que, comme on le dit, en tant que pilier de la famille c'est le socle de la société, tout commence au niveau de la famille. Si on arrive à impliquer les femmes jusqu'à un certain niveau, je pense qu'elles ont leur rôle à jouer et ça peut faire avancer les choses. D'abord, nous associer aux décisions, nous consulter, prendre nos avis, même si ce n'est pas forcément les appliquer tout le temps, mais au moins c'est savoir quelles sont nos opinions et nos pensées pour faire avancer les choses.
Cette rencontre des femmes s'inscrivait dans le cadre de la commémoration du 15e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi il y avait aussi une exposition photo sur 1000 femmes qui sont des initiatrices de paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et le Pentagone a annoncé hier avoir tué le chef du groupe dit Khorasan, Sanafi al-Nasser, lors d'une frappe aérienne jeudi dans le nord-ouest de la Syrie. Ce djihadiste de longue date avait pris les rênes des finances d'Al-Qaïda en 2012 avant de s'installer en Syrie l'année suivante, selon le communiqué du Pentagone. L'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, a confirmé son décès et a affirmé que la frappe avait également coûté la vie à Abu Yasser al-Maghrebi et à Abu Mohamed al-Jawari Jazrawi, deux hauts responsables d'Al-Nusra. Le gouvernement yéménite du président Abd Rabo Mansour Hadi s'est déclaré aujourd'hui prêt à des pourparlers avec les rebelles sous l'égide de l'ONU pour mettre fin à près de 7 mois de guerre généralisée. Cette annonce a aussitôt été saluée par l'Arabie saoudite sunnite, pays à la tête d'une coalition militaire qui aide le gouvernement à faire reculer les rebelles chiites houthis alliés à l'Iran, qui contrôle depuis plus d'un an la capitale Sanaa et de vastes régions du pays. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain rendez-vous, c'est dans 50 minutes sur la même station.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.